France Info. Toute l'actu des médias avec vous, Céline Baydarcourt. D'abord, en bref, cette surprenante diffusion du match de foot Manchester United Paris Saint-Germain hier soir sur Facebook.
Alors, on ne sait pas si ça a duré seulement quelques minutes ou pendant toute la rencontre. Là, les versions divergent. Toujours est-il que les internautes ont pu profiter des passes de Mbappé sur la page Facebook du club parisien qui reprenait les images d'une télé brésilienne, ce qui est totalement illégal puisque seul RMC Sport a les droits de diffusion de la Ligue des Champions en France, une exclusivité qui lui coûte 350 millions d'euros par an. Mais comment au mois de septembre, les abonnés ont connu des problèmes de connexion et s'en sont beaucoup plaints sur Twitter.
Toujours en bref, Alain Veil rachète l'Express.
Oui, l'hebdomadaire appartenait depuis 2015 au groupe Altice, dont Alain Veil est le PDG en France. Il va en prendre le contrôle à titre personnel. Son projet de retour à l'équilibre financier du magazine dès 2020 passera par un plan d'économie. Une trentaine de postes sur 180 seront supprimés.
Et nous mettons ce matin à l'honneur un documentaire. Notre invité en est le réalisateur. Ça s'appelle Otage et c'est à découvrir ce soir sur Canal+.
Bonjour Michel Perard.
Bonjour.
Vous faites témoigner 7 anciens otages de plusieurs nationalités, otages de groupes différents, dans des pays différents. Comment les avez-vous choisis ?
Précisément en choisissant des otages de groupes différents et puis surtout des otages qui allaient illustrer des thèmes qui sont évoqués dans le film. Ça peut être la solitude pour l'un d'entre eux, 8 ans aux mains des FARC, sans aucune parole, les gardiens avaient interdiction de lui parler. Ça peut être l'enfer c'est l'autre, un otage américain qui s'est trouvé avec un co-détenu américain lui aussi et avec lequel ça s'est très mal passé.
Qui s'est évadé sans lui ?
Qui s'était, oui, on va le punctum, le paradoxe de tout ça, c'est que finalement ils mettent au point un plan d'évasion et que son compagnon de détention est parti en l'oubliant.
On entend parfois les otages au moment de leur libération ou quelques jours après. Là, ça fait plusieurs années qu'ils sont sortis. Ils avaient besoin de parler.
Je crois qu'il y a un peu de ça. Il y a une forme d'injustice dans la narration de la prise d'otages. Ils, par définition, eux ne peuvent pas témoigner lorsqu'ils sont détenus. Et puis ensuite, c'est des scènes qu'on connaît, la libération, l'arrivée à Villacoublay en ce qui concerne la France. On pense que l'histoire est terminée. Mais non, elle n'est pas terminée pour eux. Et lorsqu'enfin ils ont un peu structuré leur récit, eh bien, on les écoute plus. Donc, il fallait du temps. Il fallait du temps pour que eux contextualisent. Et je crois que c'était le bon moment pour eux de reprendre cette parole-là.
Alors, il y a des points communs. Même. Bien sûr, il y a des points communs entre eux, mais des différences aussi. Ce qui les rapproche, c'est par exemple la nécessité de développer des techniques de survie. Hein, chacun trouve une astuce pour tenir. Par exemple, on va l'écouter, l'humanitaire français Pierre Borghi.
Je me parle à moi-même, je parle, voilà, je me raconte ma vie, j'essaye de me raconter les histoires, de me refaire les bouquins que j'ai lus. Je parle avec mes parents, avec ma famille.
Le bel azur me m'étendra à jeu, car le plus bel amour qui puis donner sur terre.
Et je chante. Je chante pour me faire travailler le cerveau, c'est-à-dire que j'essaye, je parle notamment de la chanson française de Brassens, et puis j'essaye de me rappeler toutes les paroles que j'ai pu oublier, de les reconstruire.
La détention de Pierre Borghi est absolument terrible, dans un trou, dans le noir.
40 par 60 centimètres, impossible de se coucher, de se lever, de se tenir assis, et surtout dans l'obscurité la plus complète. Et donc ça le mène à un moment donné, parce qu'il ne supporte plus l'obscurité, à se bander lui-même les yeux pour éviter de faire le point, de voir la lumière. Je pense que Pierre a été vraiment dans les conditions les plus terribles qu'on peut imaginer, puisqu'il y avait aussi le fait que ses geôliers ne venaient pas tous les jours le ravitailler ou enlever son seau de toilette, comme il dit, et donc il a vécu... dans la saleté, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué.
Il y a aussi un sentiment, pour beaucoup, voire pour tous, de déshumanisation. Leurs geôliers font tout pour que les otages ne se sentent plus des êtres humains. Un autre extrait.
Durant les premières semaines de ma captivité, j'ai pensé qu'il était important que je fasse valoir mon statut d'être humain face à mes geôliers. J'ai donc frappé à la porte de ma cellule. Hey, hey! Ils ont ouvert la porte. Je suis un être humain. Je ne suis pas un animal. Le commandant m'a regardé. Non, tu es un animal. Et il a claqué la porte.
Là, c'est un journaliste américain. L'objectif des kidnappeurs, c'est de briser psychologiquement les otages.
Il faut les désincarner, les déshumaniser. Je pense que ça correspond à deux volontés. La première, c'est éviter toute résistance. Il faut d'emblée que l'otage n'est pas la tentation de se révolter. Et puis il y a un aspect qui est important, c'est que l'otage, on le ravale au rang de marchandise négociable, parce que il est échangeable. Mais si jamais il ne l'est plus, on doit pouvoir s'en débarrasser. Mmh. Et donc, il n'y a aucune forme d'attachement possible à l'otage.
Est-ce qu'il y a un point commun, un fil qui relie tous ces anciens otages, vous qui les avez rencontrés pour ces interviews?
Je crois qu'ils ont tous une extraordinaire... Moi, je suis très admiratif de ces sept personnes. Il y a un point commun, c'est leur résilience. C'est-à-dire, on l'a dit, ils ont inventé des stratégies de survie. Ils ont géré l'indifférencié du temps qui passe. Ils ont géré ces rapports difficiles, souvent avec les geôliers. Ils ont géré l'arbitraire. Ils ont rêvé d'évasion. Donc, effectivement, il y a des points, des thèmes communs. C'est ce qui m'intéressait dans ce film. Il y a des thèmes communs qu'on retrouve chez chacun d'entre eux. Et cette résilience, ça concerne la détention. Il faut tenir. On est toujours aux aguets quand on est otage. La proximité de la mort se joue quotidiennement, mais se joue aussi dans la vie d'après. Et la vie d'après n'est pas toujours aussi facile.
La réadaptation, elle est très compliquée.
Très compliqué parce que ils idéalisent quand ils sont otages. Ils pensent que le retour va s'effectuer normalement. Ils sont pas toujours avides de glorioles, mais ils veulent reprendre leur travail, ils veulent reprendre le cours de leur vie. Et très souvent, il y a des problèmes qui se posent, notamment avec le travail. C'est le cas de Pierre, qui était humanitaire, Pierre Borghi, l'otage français des talibans, qui n'a pas retrouvé de travail quand il est sorti. Le seul travail qu'il a trouvé momentanément, c'était de ramasser des corps au moment de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Donc, c'est pas non plus un travail idéal pour la reconstruction. Et puis ensuite, il était au chômage. Et puis, il y a des problèmes qui se posent avec les familles aussi. Oui. C'est un peu souffrance contre souffrance, c'est-à-dire les familles elles-mêmes ont souffert. Et les otages
leur reprochent.
Et elles leur reprochent. Et les otages qui sont affairés à leur reconstruction sont pas toujours en mesure de prendre en compte cette dimension-là de la souffrance des familles. Mmh.
Vous-même, Michel Perrard, vous avez été détenu par les talibans en 2009. Vous êtes toujours marqué?
Non, je pense pas, parce que ma situation était extrêmement différente. C'est-à-dire, je n'ai pas été prise en otage. J'ai été arrêté par les talibans alors que j'étais rentré illégalement et en pleine guerre sur le territoire afghan. C'est-à-dire que moi, je pouvais m'attendre à ce qui a lieu, à une instruction, à un procès, à un jugement. J'ai été condamné à mort et puis ensuite un peu miraculeusement gracié parce que le régime est tombé une dizaine de jours après. Mais j'ai pas eu cette gestion de l'arbitraire, ne pas savoir être otage. Finalement, c'est quoi? C'est attendre, ne pas savoir si et quand on va être libéré.
Et votre documentaire Otage, Michel Perrard, est donc à découvrir ce soir 21h sur Canal+. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin.
Merci.
Dans le studio de France Info.